Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmentis, vous écoutez le Club Desmentis et ce mois-ci, on a lu Le Seigneur des Anneaux. Et par « on », je veux dire « moi », parce que moi, j'ai lu ça ce mois-ci en fou, mais je suis accompagné de personnes qui l'ont déjà lu, alors je vais pouvoir dialoguer parlant de personnes qui l'ont déjà lu. Daphné, re-bienvenue.
Merci de me réaccueillir sur le balado.
Et tu nous as amené un ami, Jonathan. Bonjour, oui. Jonathan.
Bonjour.
Et c'est le retour de Patrick également. Bonjour, oui. Patrick.
Hey, salut.
Et ben, ça me fait plaisir de vous avoir. Avant de commencer la conversation, je veux vous le dire parce que vous le savez, je le dis à chaque fois, mais ceci est un club de lecture, donc on considère que vous avez lu le livre, on va divulgacher en masse, on va retenir aucun spoiler. Donc, sur ce, je suis un peu embêté, je ne sais pas avec qui commencer. J'ai jamais entendu Jonathan, c'est la première fois qu'on se parle, et apparemment, tu es un très grand fan. Nous allons donner de l'amour à ce livre avant de peut-être donner un peu de haine, mais vas-y, parle-nous de ta passion pour Le Seigneur des Anneaux.
Ben, moi, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux avec le premier film de Peter Jackson. Donc, je suis allé voir La Communauté de l'Anneau début des années 2000, je n'ai pas l'année exacte. Mais après avoir vu le premier film, j'ai été accroché tout de suite. Puis, je suis allé m'acheter ça. Donc, la trilogie que j'ai dévorée là, en dedans de à peu près un mois, là, j'ai lu les trois. Je me suis rendu compte à quel point l'adaptation était... assez bonne, assez fidèle. Et puis, donc, fan des films en premier, puis ensuite du roman, de l'univers surtout. Et puis, je l'ai relu une deuxième fois après que la trilogie de films ait été complétée. Là, je me suis retapé les romans une deuxième fois.
Ça doit être quand même particulier de commencer la série avec le film. Après ça, tu lis le livre. Après, les autres films que tu vois, tu les as déjà lus. C'est-tu plus agréable de l'avoir lu à l'avance ou l'inverse?
J'ai pas vu vraiment de difficultés. Ça m'est arrivé souvent de regarder un film, d'aller lire le roman par après. La première fois que j'ai fait ça, c'était avec Jurassic Park. Oui, il y a des différences. Tu t'attends à ce que ça soit différent dans le roman, que ça soit plus complet, que le monde soit plus vaste, tout ça. Donc, moi, j'allais chercher plus le lore, là. Aller voir tout le monde qu'il y a autour du film. Mais c'est la première fois où je me suis rendu compte que Colin Peter Jackson a quand même bien adapté le roman. Donc, il manquait pas grand-chose.
C'était pas décevant, dans le
fond. Non, c'était pas décevant. Et puis, de regarder les films... Ensuite, puis il faut dire que les films au cinéma, les versions plus écourtées, là, par rapport aux versions... plus longues, là, qui sont sorties par après en DVD. Donc là, c'est OK, est-ce qu'il va tout mettre les éléments du roman? Mais, tu sais, je suis pas déçu. Je suis pas le genre de fan qui va critiquer le fait « Ah, mais là, il manque telle chose, il manque telle chose » ou « Il aurait dû dire exactement la réplique comme dans le roman. » Tu sais, je comprends que c'est deux médiums différents puis qu'il va y avoir des différences. Donc, non, je suis bon public pour ça.
Excellent. Ben, tu m'ouvres la porte là, juste pour situer où j'en suis, moi, par rapport à ça. C'est que, comme toi, j'ai vu le premier film à l'époque où c'est sorti. Puis on se souvient que ces films-là sont sortis à un an d'intervalle. Puis j'avais vu le premier film. Puis après ça, je suis venu pour voir le deuxième film. Puis j'avais complètement oublié le premier. Puis j'ai jamais vu les films 2 et 3. Et là, on se retrouve aujourd'hui en 2024, donc 23 ans plus tard, et j'ai lu la trilogie. Donc, c'est là où j'en suis. J'ai pas vu. Je voulais voir les films pour ce podcast, mais finalement, je viens de finir les livres. Puis moi, l'édition que j'ai, c'est les éditions de 3h30 chaque. Là, fait que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de rattraper mon retard. Toi, Daphné, là, t'étais bien emballée à l'idée de venir me parler du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus?
Mais là, premièrement, je dois vous dire que moi, je suis épatée là, que toi, tu l'aies lu en un mois, la trilogie au complet, plus
Willow. C'était une très mauvaise idée.
Mais moi, wow, je suis vraiment impressionnée. En plus, tu as lu Bilbo la semaine d'avant aussi de commencer. Là, fait que,
ça, je l'ai lu en janvier quand même. Là,
OK, quand même. Mais tu sais, quand même, en mettons 4 mois, tu as lu tout Le Seigneur des Anneaux avec Bilbo. C'est quand même impressionnant. Puis, Jean qui dit qu'il a regardé. Il l'a lu, en fait, deux fois en genre de 3 semaines, 1 mois. Moi, ça me dépasse. Ma mère est une grande lectrice, puis c'est une grande lectrice de science-fiction et de fantasy. Fait que, tu sais, chez nous, quand j'étais jeune, on avait une vieille édition là, de la trilogie qui date de genre 1968. Puis moi, ma mère, ça fait depuis vraiment longtemps, là, je dois avoir... Dès que j'ai commencé à voir que je m'intéressais un petit peu à de la fantasy, elle dit lis ça, puis j'étais comme ça a l'air rébarbatif, tu sais. C'était en anglais premièrement, puis c'était des gros romans, puis c'était écrit tout petit. Fait que j'étais pas trop vendue, puis là moi aussi c'est un peu tu sais les films sont arrivés, puis j'avais des amis qui étaient déjà fans, tu sais, il y avait Jonathan qui voulait aller le voir, mais j'avais d'autres amis aussi à l'époque qui eux les avaient déjà lus les livres, puis ils étaient super emballés, fait que là ils m'ont un peu transmis le goût, en fait, là, de le lire. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu chaque tome dans le fond, j'ai lu le premier tome, j'ai pris quelques mois, mettons, pour le lire, puis après ça, il y avait le film qui sortait, fait que là, j'ai vu le film, après ça, j'ai fait la même chose, fait que là, j'avais comme toujours un an, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, c'est comme ça que je les ai découverts, et je ne les ai jamais relus, mais je pense que j'ai revu les films, par exemple, mais... mon impression de lecture est comme restée très, très forte malgré que je ne les ai jamais relus. Fait que là, j'étais bien énervée que tu les lises. Puis, là, c'est ça, Patrick, Jonathan, vous ne savez pas, mais Sylvain, il me tenait au courant là, en privé. Là, j'avais pas le droit. J'étais comme, OK, yeah! Mais je ne voulais pas trop dire d'informations parce que rien spoiler, pas non plus teinter son expérience ou... vendre trop moi, c'est quoi ma perception, fait que c'est ça, fait que je suis bien heureuse, puis j'ai très hâte de t'entendre de nous en parler plus, Sylvain.
Mais en fait, je me suis servi de ces messages vocaux pour me rafraîchir la mémoire pour le podcast d'aujourd'hui.
Oui, c'est bon!
Donc, c'est très bon. En fait, j'étais conscient quand je le faisais que j'allais probablement faire ça, donc c'est un aide-mémoire. Patrick, toi, tu l'as lu quand même récemment, Le Seigneur des Anneaux.
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé?
En fait, pour faire un petit contexte, un petit background, moi, je suis un gros fan des films, de la trilogie. C'est ma trilogie préférée. Je les regarde peut-être 3 années. Et dès la première scène, je pleure jusqu'à la dernière. Et j'adore ce film-là. Je suis hyper émotif à chaque fois que je les vois. C'est un peu mon feel-good movie. Parce que c'est un film, on s'entend, même les trois. Et j'ai toujours eu du mal à lire les livres. J'ai essayé, après avoir vu le premier film, au 99-2000. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les romans de fantasy en général. J'adore la fantasy. Je joue à Donjons & Dragons. On peut me donner un livre sur le lore d'un monde, j'adore ça. Mais un roman de fantasy, je déteste ça. Je sais pas pourquoi, je bloque complètement. Et c'était le cas avec Le Seigneur des Anneaux. Et il y a quelque chose de fantastique que j'ai découvert il y a quelques années, les audiobooks. Mmh. Et j'ai pas besoin de me concentrer autant. Ben oui et non, en tout cas. En fait, je suis un lecteur lent, donc quand je lis, s'il se passe pas grand-chose, s'il y a des descriptions sur plusieurs pages, j'ai beaucoup de mal, alors qu'un audiobook, c'est pas grave. Mmh. Donc, en décembre, je savais pas quoi lire. Puis je venais de finir un livre de Stephen King quelconque, puis je me suis dit, ben je vais essayer Le Seigneur des Anneaux, ça a passé, puis c'était très bon, j'ai adoré. Mmh. Et c'était chouette de... Moi, j'aime bien lire les livres après avoir vu le film pour voir les différences. Toi, Daphné, je sais que tu as lu les livres avant de voir les films. Ça, je déteste ça parce que c'est jamais aussi bon. Alors que si tu lis après, ben t'es, OK, il y a des détails que... Voilà. Mmh. Donc, non, j'ai pas été déçu et je trouve qu'il y avait plein de trucs à voir. Parce que j'ai adoré et justement, je vais prendre le relire bientôt quand j'aurai un peu plus de temps.
Voilà.
Mais avant d'en parler en détail, toi, Sylvain.
Bon, moi, je l'ai dit, là, c'était une erreur de tout lire ça en un mois. Là. J'aurais dû vraiment prendre plus mon temps parce que le retour du roi, là, ben, premièrement, je disais là en anglais, le retour du roi, là, et que j'ai diagonalisé cette lecture comme j'ai jamais diagonalisé une lecture de ma vie. Oh. Ben non, mais je l'ai lu là, mais. Vous allez me dire des affaires, puis je vais faire « Ah, ah, oui, c'est vrai, il y avait ça. » surtout le troisième tome, j'aurais dû vraiment attendre avant de le lire, là, comme le lire dans quelques mois, puis peut-être regarder les films avant ou tout ça. En fait, j'avais une amie qui m'avait recommandé de regarder les films avant de lire les livres parce que t'as comme déjà un pied dans l'univers, donc ça te donne des repères. Puis j'étais comme ah, c'est une bonne idée. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop une bonne idée. Puis c'est ça. Mais par contre, ceci étant dit, j'ai aimé ça, là. J'ai aimé ça. Et je compte relire ce livre-là. Je pense que, comme j'en ai parlé, Daphné, je pense que tous les détails auxquels je ne m'intéressais pas à la première lecture, je pense que là, je vais m'y intéresser parce que mon but en lisant ce livre-là pour une première fois, c'était de voir l'histoire se dérouler puis voir où est-ce que ça s'en allait puis comment ça se terminait puis tout ça. Là, maintenant que je suis attaché au personnage, maintenant que j'aime l'univers, maintenant que là, j'ai envie d'écouter leurs histoires, j'ai envie d'en connaître plus, j'ai envie d'y aller dans le détail, ce qui n'était pas forcément le cas à ma première lecture. Et il y a une autre chose que je veux dire, c'est que je me sens un peu monsieur à l'envers, parce que tout le monde me prévenait que le premier tome, attention, il faut que tu t'accroches parce qu'il y a beaucoup de détails. Puis après ça, quand tu arrives au deuxième tome, troisième tome, là, il y a de l'action puis c'est le fun. Moi, le premier tome, c'est mon préféré. Moi, j'ai vraiment préféré ce tome-là. J'aimais ça, moi, quand c'est une petite gang qui sont ensemble puis qui jasent autour du feu de camp. Puis ce n'est pas... Tout à l'heure, on fera un tour de qui est votre personnage préféré, mais et ce n'est pas mon personnage préféré, mais moi, Tom Bombadil, je l'aime. Je l'apprécie. Je le trouve le fun. Je suis content qu'il soit là. C'est un peu ce que j'ai dit à Daphné dans les messages, c'est que c'est un peu le Bibi de Bibi et Geneviève, dans le sens que Bibi arrive en disant Bibi, Z449-44X, c'est ici. Puis tu sais, je suis comme Tom Bombadil, il arrive, il fait Tom Bombadil, c'est moi, je suis Tom Bombadil. Puis c'est à peu près juste à ça qu'il sert. À un moment donné, plus tard, il y a Gandalf qui en reparle de ça. Les gens au conseil se disent on pourrait lui donner l'anneau puis le charger, lui, de cette mission-là parce que l'anneau n'a aucun effet sur lui. Puis là, je savais qu'il ne revenait pas. Là. Je le savais à l'avance. Mais tu sais, j'aurais ressenti un certain espoir là où la plupart des gens, je pense, auraient juste peur. Ah non! Faites-le pas revenir! Mais bon. Mais Gandalf qui résume la situation en disant ben non, il est bien trop stupide, il va le perdre à quelque part l'anneau, puis il ne saura pas risquer, il ne saura pas pourquoi il est là. Mais bref, moi je passerai plus de temps avec ce personnage-là. Je l'ai trouvé bien agréable. Et ensuite, à la fin du premier tome, il y a une séparation du groupe et il y a une séparation de mon intérêt. Je pense que c'est ça qui a rendu mon expérience de lecture vraiment lourde, parce que tout ce qui se passe avec Frodo et Sam, je capote, j'adore, je trouve ça le fun. Il y a Gollum, il y a l'espèce de bromance avec un B pas tellement visible parfois, qui est là entre les deux. Je les aime, ces personnages-là, j'aime ce qui leur arrive, je me soucie de ces personnages-là. Puis d'un autre côté, t'as tous les autres personnages, et ça, j'en ai rien à foutre. Ça faisait que c'était un peu difficile, puis je me disais, si ce livre-là avait été écrit aujourd'hui, probablement qu'on aurait, dans une structure moderne, on aurait un chapitre qui se passe avec Frodo, un chapitre qui se passe avec les autres, un chapitre qui se passe avec Frodo, un chapitre qui se passe avec les autres. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est vraiment séparé en deux parties. Le tome 2 est séparé en deux parties. Une avec Frodo, une avec les autres. C'est la moitié du livre, là. Donc, c'est long. Et la même chose pour le troisième tome. À la fin, ça se regroupe, là, mais pour la majeure partie, c'est comme ça aussi. Fait que quand c'est long, c'est long. Puis j'ai un peu l'impression que les longueurs étaient... ce que moi, je percevais comme longueur n'était pas forcément celle que d'autres personnes auraient pu percevoir. Mais là, juste pour le fun, là, c'est lequel votre personnage préféré?
Ben, moi, mon personnage préféré, c'est Sam. Moi, Sam, je crois que c'est le véritable héros de cette histoire. On pense que c'est Frodo, mais non, en fait, c'est Sam. S'il n'y avait pas Sam, l'anneau ne serait pas détruit. Fait que moi, c'est vraiment lui mon préf de toute la vie. Je l'aime d'un amour infini et indestructible. Ça va toujours, toujours être lui. mais sinon, tu sais, j'ai d'autres personnages que j'aime vraiment beaucoup. Moi, Aragorn, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Premièrement, dans les livres, là, mon Dieu, il est bien séduisant, cet homme. Puis, c'est quoi le nom de la fille dans Rohan, Eros, dans les films? Eowyn, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Ça serait Sam, après ça Aragorn, après ça Eowyn pas loin, mais ça serait vraiment mon top de personnage préféré. Toi?
Je suis pas mal d'accord avec ta description des personnages. Moi, j'aimais beaucoup quand Gandalf arrive dans l'histoire. Mmh. Parce que souvent, il disparaît. Mais quand il est là, c'est toujours épique. Mmh. C'est toujours des moments intenses. Donc, j'aimais beaucoup quand Gandalf était là. Mais je peux comprendre qu'il ne faut pas trop utiliser ce genre de personnage-là surpuissant. Mmh. Ou est-ce que si tout le temps là, mais toute l'intrigue repose sur lui.
C'est trop facile.
C'est ça, c'est trop facile. Ouais. Puis j'aime beaucoup aussi les héros qui sont très typés, là, chevaleresques. Donc moi, Aragorn, j'aimais beaucoup ça quand... justement, la section des romans où on suivait l'autre gang, là, comme tu disais.
Ouais.
J'aimais ça parce que c'est là où tu vois tout le côté politique. Moi, je suis un triple politique. Donc là, c'est là que tu vois toutes les intrigues, comment il va aller chercher les différentes factions pour essayer de monter une armée. Moi, j'aimais beaucoup ça. Puis le fait que Aragorn est un leader fort, j'ai vraiment trippé là-dessus.
Il est tellement beau. Oh.
D'accord.
C'est vrai, là, on se rejoint sur ça.
Non, mais moi, ce à quoi je pensais, c'est que... Ben, premièrement, quand il arrive, c'est pas Aragorn, c'est Strider.
Oui.
Puis moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était Viggo Mortensen. Puis Viggo Mortensen, il est cute, là. C'est un très bel acteur, c'est un très beau monsieur, il est joli. Mais quand je lisais sur Aragorn ou même Strider, là, quand il arrive, j'étais comme « Oh my God! » L'espèce de charisme, le charme qu'il a, il sort de l'ombre. Puis il a tout de suite l'air très intelligent, il a tout de suite l'air vraiment à son affaire, tout ça. C'est aussi le classique héros venu pour te sauver, là. C'est... oui, j'approuve. Mais continue.
Ben, tu sais, c'est l'équivalent, je trouve, de Athos dans les Trois Mousquetaires, où il est comme... Il est mystérieux. On ne sait pas trop son background. Mais en même temps, il a tellement des valeurs de chevalerie, là, très profondes et ancrées en lui, où est-ce qu'il est plus grand que nature, tu sais. Surtout vers la fin du roman. Au début, justement, c'est plus le mystère, tout ça, mais il finit par devenir, justement, le roi du Gondor. Là.
Mm-hmm.
Puis tu comprends que oui, c'est lui qui mérite cette place-là. Sam, évidemment, là, avec la dualité, là, Frodon-Sam, c'est vrai que c'est super intéressant comme dynamique. T'sais. Puis Sam, c'est le personnage qui sauve la mise. Là. Ouais. Mais on est moins accroché par le héros lui-même. Tu sais. Ouais. Alors qu'Aragorn, c'est un héros. Là. Tu sais, c'est tu aurais la définition d'un héros, puis tu aurais sûrement Aragorn à côté. Là, tu sais.
C'est vrai. C'est vrai, t'as pas tort. Oui, je pense à mes personnages, mais toi, Patrick?
Moi, ça diffère entre version film et livre. Dans les films Team Daphné, Sam, j'ai même une tasse avec Sam dessus. Et vraiment, là, je l'adore dans les films, c'est vraiment champion. À chaque fois qu'il parle, je pleure, en tout cas. Bref. Mais en lisant les livres, ce qui m'a plus frappé, c'est Frodon. Je trouve qu'on voit tellement plus dans les livres la difficulté qu'il a au fur et à mesure des pages de porter l'anneau. Et tu sais, oui, on dit sans Sam, Frodon n'aurait pas réussi, mais sans Frodon, Sam n'aurait pas plus réussi parce qu'il aurait été affecté par l'anneau également. Mmh. Il serait retourné chez lui en train de jardiner, il serait devenu le meilleur jardinier au monde, mais voilà, ça serait fini là. Et je trouve que Frodon, il y a vraiment tellement des belles dimensions par rapport à lui. Puis oui, le couple Sam-Frodon, c'est beau, leur romance.
C'est cute, c'est cute. À un moment donné, il s'est fait prendre par l'araignée, puis il est tout nu, puis là, Sam arrive, puis il l'embrasse, puis il te prend dans ses bras. Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à avoir tant de sentiment viril. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je ne m'attendais pas à ça.
C'est un bon exemple de masculinité saine, je trouve. Ouais. Ils n'ont pas peur de montrer leurs émotions, ils n'ont pas peur de dire qu'ils s'aiment et tout. Et ouais. C'est beau.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est l'éternel problème que j'ai, c'est-à-dire que en tant qu'homme gay, j'aimerais ça qu'il soit gay, j'aimerais ça avoir de la représentation, oui. J'aimerais ça. Oui. Mais d'un autre côté, je trouve ça vraiment très le fun que no homo, mais tu sais, genre, je trouve ça vraiment le fun que de voir que des gars peuvent être amis puis se prendre dans leurs bras puis pleurer ensemble, puis tu sais, genre, sans que ce soit amoureux ou sans que ce soit des gays ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, je suis tout le temps dans cette problématique-là qui tourne en rond, je suis tout le temps comme entre les deux, tu sais, j'aimerais ça qu'ils soient gays, mais je veux pas non plus dire qu'ils sont gays juste parce qu'ils ont des émotions, en tout cas.
Oui, fait que c'est, dans les films, c'est encore plus ambigu, on dirait vraiment qu'il y a une romance, surtout vers la fin avec les regards qu'ils jettent et tout, quand tu les verras, tu...
Ils sont peut-être bi, tu sais.
Peut-être.
Ah, oui.
Pourquoi pas.
Mais je dois avouer que moi j'ai du mal à nommer mes personnages préférés parce que ils sont préférés à des moments différents, mais vraiment, tu sais, au départ là, j'étais Strider, je veux même dire Strider, je dirais même pas Aragorn, parce que le bout où il est Strider, pour moi là, c'est le moment où il m'a vraiment fait une impression incroyable. Puis, je veux dire, il est toujours Strider, mais je veux dire, quand on le connaît sous ce nom-là, c'est vraiment le moment où il m'a fait une impression incroyable. Dans le tome 2, Sam, all the way. Puis, ce que j'ai trouvé, je vais faire une aparté, là, ça a l'air complètement par rapport à ce que je veux dire, mais je vais faire un lien. Quand je suis allé voir Black Panther, à un moment donné, le gars qui fait Black Panther, ben, c'est-à-dire pas, mon Dieu, c'est vrai, l'acteur est décédé, je suis désolé, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le personnage de Black Panther meurt, puis là, tout le monde est comme super triste de cette affaire-là, mais c'est Black Panther, moi, je le sais là, dans ma tête qu'il va revenir. Là. Puis je disais ça sur les médias sociaux, puis je disais comme... Pourquoi là qu'ils font semblant de tuer des personnages, on le sait qu'ils vont revenir, ça gosse plus qu'autre chose. Puis j'ai un ami qui m'a dit non, moi j'ai eu beaucoup de peine quand c'est arrivé parce que je savais intellectuellement que le personnage allait revenir, mais de voir les autres personnages autour avoir de la peine, moi ça me j'avais de la peine pour eux autres, tu sais. Puis moi je le ressentais pas comme ça quand j'ai vu ce film-là, mais quand Frodo meurt, là, puis Sam vit toutes les émotions, là, pour vrai, je savais dans ma tête qu'elle allait revenir, là. Il pouvait pas mourir, Frodo, là. C'est clair qu'il revenait, mais les émotions que Sam traverse dans ce chapitre-là, là, je pleure rarement parce que j'ai un cœur de pierre. Mon cœur est un frigidaire qui pompe des cubes de glace dans des ventes de pierre, mais cette scène-là, pour vrai, j'avais les larmes aux yeux, puis j'étais comme, oh mon Dieu, pauvre petit gars, j'avais de la peine pour Sam qui perdait son ami partenaire. Et c'est ça. Donc, il y a ça, puis le troisième tome, j'aurais du mal à sortir. Moi, je vais dire Gollum, parce que Gollum, je l'aime. Je l'apprécie. J'aime qu'il soit là. Je trouve que c'est un vilain. C'est un vilain comme super vilain, mais vraiment pas bon. Fait que je le trouve exceptionnel et j'ai vraiment été très surpris. C'est clair que ça... pas mal certain que ça se passe pas comme ça dans le film, là. Mais j'ai été vraiment surpris de voir la scène où il fait comme « Ah! J'ai mon anneau, mon précieux! Yup! Yup! Whoops! » Puis il tombe dans le volcan. J'ai été surpris de lire que ça se passait comme ça. C'est un peu anti-climactique, mais c'est quand même rigolo. J'aime beaucoup ce personnage-là. Et parlant de cette scène-là, de la fin, moi, je me doutais bien que la destruction de l'anneau allait se faire comme à la fin du livre, mais je ne m'attendais pas à ce que cette scène... Moi, je pensais que ça allait être comme l'avant-dernière scène, pas l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernière scène. Non, 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 il y a encore trois chapitres qui se passent après ça.
Là, tu vois, je trouve que ce qui arrive ailleurs, là, c'est pas juste la destruction de l'anneau qui est
important. Je le sais. Mais en fait, l'anneau, c'est juste une excuse. Là. Je comprends bien que c'est juste un petit détail dans cet univers-là, mais je pensais quand même que c'était... Tu sais, encore une fois, dans un roman moderne, on mettrait... On a fini Game of Thrones avec un dragon qui brûlait un trône pour aucune
raison. Oui, mais est-ce vraiment la vraie fin?
Non, c'est pas la vraie fin. Il n'y en a pas de vraie fin. On ne le saura jamais. On n'arrivera jamais. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça quand même particulier comme scène. Est-ce que vous avez des scènes primordiales, le moment fort là, pour vous, qui vous fait revenir à cette histoire-là?
Les mines de la Moria. Je trouve que... Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les... Je vais être dépaysé quand je lis du fantasy. Et puis, c'est un goût où t'es littéralement, là, c'est un page-turner, là. Tu veux savoir ce qui va arriver parce que là, ils se font pourchasser. Puis, avec le Balrog à la fin, je trouve que c'est une des... Dans le film aussi, là, c'est carrément épique. Moi, c'est souvent la scène qui me fait remémorer, là, à quel point j'aime cet univers-là, tu sais, où c'est riche, c'est complexe. Tu sens qu'il y a une histoire avant ça. Tu sais, c'est pas trop dit pourquoi les mines sont désertes, les mines de la Moria, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sais, là, tu vois des petits indices. Tu dis, Caroline, juste ça, ça pourrait faire un roman. Tu sais. Et puis, t'as comme une... Oui, ça finit sur un moment... triste, entre guillemets, là. Gandalf disparaît là, avec le Balrog. Mais encore là, c'est épique. T'sais? Mm-hmm. C'est quelque chose de plus grand que nature. Là. Puis après ça, tous les héros se regroupent et let's go, on continue la quête. Ouais, c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié.
Moi, je pense que Sylvain, on ne se rejoindra pas là-dessus. Moi, il y a deux moments qui me restent forts, puis c'est pas dans le troisième tome ou dans le climax ou rien, c'est vraiment quand les Ents réussissent à comme prendre le dessus, ils attaquent la base là, des orques puis tout, puis que là, finalement, avec le pouvoir de la nature, ils détruisent en partie l'ennemi. Là, moi, là, ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Moi, je sais que tu les aimes pas, les elfes, tu me l'as dit. Moi, là, je les adore, OK? Je les aime vraiment beaucoup. J'ai bien aimé ce bout-là. Si veux-tu y aller, puis je te dirai mon autre bout après.
Ah oh non, non, mais je veux juste dire que je pense que les Ents, c'est... Les Ents sont pour moi ce que Tom Bombadil est pour le reste de l'univers. Mais vas-y, vas-y avec ton autre...
je me rappelle pas de son nom, là, mais c'est, ça aussi, c'est dans Rohan, quand le roi, il est comme empoisonné là, par le parfum, que je me rappelle, Grishina, ou je me rappelle plus son nom. Puis là, finalement... il réussit à s'en sortir, tu sais, puis il combat l'espèce de sort qui lui est jeté. Là, puis après ça, ça twist un peu l'histoire parce qu'il réussit, tu sais, à reprendre le contrôle de son royaume. Ça, j'aime vraiment beaucoup ce bout-là.
Merci, merci. Patrick?
Oui. Ben, moi, j'en ai quelques-uns.
Vas-y,
mais,
vas-y.
Oui, oui. Le premier, ben, Tom Bombadil. J'ai beaucoup aimé ça.
Ah. Ouais.
En plus, en version...
Non, c'est ça. Deux amateurs.
Je suis un homme de Tom Bombadil. Je trouve que c'est... Ça n'a comme pas rapport, là.
Mais je m'attendais tellement à me faire chier parce que, bon, c'est qu'il est connu pour être chiant. Puis justement, que ça n'a aucun rapport, comme tu dis. Mais je trouve que je sais pas, j'ai vu les films 1000 fois, donc ça faisait quelque chose que je connaissais pas. Donc, Et en plus, dans l'audiobook, il chante. Et il chante pas si mal que ça. Et comme il y a tellement de chansons à ce bout-là, ben, ça
fait... Ah oui, j'avais oublié de le dire, mais le Seigneur des Anneaux, c'est une comédie musicale.
Mais tu sais, dans le lore, si je me trompe pas parce que je suis pas vraiment un expert, il me semble que le dieu, je me rappelle plus de son nom, crée le monde avec des chansons, si je me trompe pas, avec des musiques. Jonathan, je pense que tu... Bon. Donc, ouais,
c'est nébuleux, là. Je suis jamais passé à travers vraiment là, le Silmarillion. Je sais que c'est là-dedans, là,
mais ouais.
J'ai pas eu le courage. Ça n'a rien à voir, c'est lourd, là. Si t'aimes les descriptions, ouais, ça, c'est génial. Mais si t'aimes pas ça...
mais la musique et les chansons sont vraiment quelque chose qui tient à cœur à Tolkien. C'est vraiment... tu vois que ça lui tient à cœur. Sinon, ben, des books qui m'ont beaucoup impressionné. Le discours d'Eowyn quand il tue le roi sorcier. Tu sais, dans le film, c'est juste... je ne suis pas un homme, je suis une femme, mais je trouve que dans le livre, tout le dialogue à ce moment-là est tellement fort, et j'ai beaucoup aimé, ce personnage-là est génial. Si c'était pas Frodon et Sam, ça aurait été Eowyn pour moi. Vraiment adoré de ce personnage-là. Dans le livre. Et j'avais peur parce que je sais qu'Arwen, on la voit presque pas dans le livre comparé au film, et je me demandais s'il allait faire la même chose pour Eowyn, mais non, au contraire, elle est encore plus présente que dans le film, et vraiment adoré ce personnage. Aussi, quand il a la scène où que Sam et Frodon sont témoins de l'embuscade que la troupe de Faramir fait aux Oliphants et aux Orientais, ou ceux du Sud, je ne me rappelle plus exactement.
Ils sont un à côté de l'autre!
Oui!
Mais non!
Et justement, quand ils voient... un cadavre, et tu vois que Sam se pose plein de questions sur la guerre, sur la vie de cet homme-là qui est mort, loin de sa famille, et je trouvais ça tellement touchant. Je sais que dans le film, Faramir en parle, mais je trouvais que c'est tellement plus développé, et on en vient au discours un peu anti-guerre que Tolkien avait à l'époque, et j'ai trouvé ça beau. Et sinon, le dernier truc que j'aurais à dire, c'est tout le passage avec Frodon et Sam dans la Moria, pas la Moria, le Mordor, tu sais, dans le film, on dirait que ça dure quelques heures, alors que dans le livre, ça dure des jours et des jours, puis ils cherchent de l'eau, puis c'est dur et c'est long, et tu sens tellement la douleur, la fatigue avec eux, et voilà, ça me crevait le cœur de les imaginer dans un pays de cendres, à boire de l'eau noire. Pour moi, c'est ça.
J'ai une pensée que j'ai oubliée, mais c'est pas grave. J'ai souri. je pensais à quelque chose.
C'est quoi tes scènes préférées, toi qui t'en marques?
Ouais.
Moi, la pseudo-mort de Frodo, Tom Bombadil, j'aime vraiment beaucoup. Le retour de Gandalf, parce que quand il meurt, quand il revient, c'est comme « Oh, Gandalf, enfin! »
Depuis puis, de c'est hot, ça!
Oui. Puis, l'autre... une autre scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est... en fait, je trouvais que c'était vraiment bien exécuté. C'est toute la raison pour laquelle le groupe se sépare, c'est-à-dire... mon Dieu, j'ai oublié son nom.
Boromir.
Boromir qui comme capote sur l'anneau puis attaque Frodo puis tout ça. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça bien amené, j'ai trouvé ça le fun. Ça amène éventuellement son frère, le frère de Boromir. Puis bref, puis quand son frère comment? Faramir, c'est ça. Désolé, j'ai oublié les noms, là, j'ai lu ça en un mois. Mais ce que je trouvais intéressant dans son arrivée à lui, c'est que on a vraiment peur. Puis encore là, c'est parce que je lis ça en 2024, hein, fait que j'ai des références, j'ai des scénarios typiques d'histoires racontées modernes. Ce livre-là vient vraiment briser tout ça parce que moi, je me disais, hey, là, c'est clair. Puis j'ai eu peur là, à ce moment-là quand le frère arrive parce que là, son frère est mort. Puis là, il va-tu accuser les gens? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça?
Amir, je l'aime beaucoup, moi.
Oui, et finalement, on l'apprécie. Finalement, on l'apprécie, mais tu sais, quand il arrive, là, j'étais comme, oh, ami ou ennemi, pas sûr. Ouais.
Puis ça nous fait apprécier un petit peu plus Boromir aussi, rétrospectivement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, c'est regrettable qu'on n'ait pas eu de scène entre les deux, qu'on apprend à connaître ces personnages-là comme séparément, tu sais.
Ouais.
Mais je pense que c'est pas mal mes scènes préférées. Ouais. Je dirais ça. Ah, mais aussi les retrouvailles, là. Ou les retrouvailles quand Frodo est tout nu. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de voir un Hobbit tout nu, mais l'image qu'il soit nu et comme fait, tu sais, fébrile et en danger et faible. Puis son ami qui vient le réconforter, regarde, ça a réchauffé mon petit cœur de glace. Une autre chose que j'ai envie de dire, c'est qu'ayant lu le Hobbit, j'étais pas sûr de l'écriture là, dans le Hobbit. Je suis pas sûr d'avoir aimé l'écriture dans le Hobbit, mais l'écriture dans Le Seigneur des Anneaux, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, rétrospectivement, je pense que le problème que j'ai avec l'écriture du Hobbit, c'est la grande différence entre le ton et l'écriture, j'ai l'impression, je sais pas. Faudrait que je le relise après avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Mais il y a des phrases, là. Il y a des très jolies phrases. J'en ai pas souligné énormément, mais dans le tome 1, je vais vous en lire une. C'est quand... c'est avant l'attaque, là. Avant l'attaque de Boromir, ils sont... Oh, non, en fait, ils sont encore dans... c'est après le Council of Elrond. Ils sont encore ensemble. Puis là, ils vont... j'ai trouvé ça très long comme bout. Mais tu sais, ils ont du plaisir. Ils s'en vont, ils savent qu'ils s'en vont dans une aventure très dangereuse. Mais là, pour l'instant, c'est leur dernière soirée. Ils sont heureux. Et c'est écrit, « The future, good or ill, was not forgotten. » But cease to have any power over the present. Fait, je sais que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien expliqué, je comprends ce qu'il veut dire. On est là, on a du fun, on le sait qu'on va peut-être mourir demain, mais c'est notre soirée ensemble, puis on trippe. Puis dans le tome 2, j'ai vraiment été surpris. Il y en a une phrase dans le tome 3, mais j'avais pas mon crayon pour le souligner, fait que je l'ai pas souligné. Mais j'ai été surpris de lire « Where there's life, there's hope ». J'étais là, mais ça vient de là? Je savais pas que cette phrase, cette phrase-là venait de là. Et ça fait un peu, il y a une réponse un peu à ça, justement, dans le tome 3, où « Where there's a whip, there's a way ». J'ai adoré ça. Mais bon, bref, c'était mes moments forts. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Le Seigneur des Anneaux? Bien, je sais que vous pourriez en parler pendant 3 heures.
J'ai détesté des bouts comme que c'était comme non, moi, je vais abandonner. Genre,
moi, j'ai l'impression que j'ai frappé un mur à la fin du deuxième. Ben, c'est pas à la fin du deuxième tome, c'est pas vrai, parce que ça finit avec Frodo, puis c'est bon ce bout-là. Mais la fin du livre 3, c'est-à-dire la troisième partie, là, je trouvais qu'il y avait. J'avais pas été intéressé par tout ce qui se passait dans cette partie-là.
Quand ils sont séparés, puis là.
Quand ils sont séparés.
Oui, puis Pippin avec les Ents, puis tout ça. Puis là, il faut que tu m'expliques.
Les Ents.
Pourquoi les Ents, tu les aimes pas? Parce que tu m'as dit, je les aime pas, j'ai trouvé ça long, c'est mon Tom Bombadil, mais pourquoi?
Je pourrais pas te l'expliquer, je pourrais pas le mettre en mots. C'est moi, je sais pas. Je trouvais ça quand ils sont là. C'est peut-être parce que c'est des arbres et ils bougent lentement, mais quand ils sont là, je trouvais ça lent. Moi, ça ralentissait mon rythme de lecture. Ça me freinait beaucoup. Puis ils sont là, puis ils sont lents, puis ils racontent beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas à ce moment-ci. Comme je l'ai dit. J'ai vraiment envie, je pense que c'est en partie de ma faute qu'il y a des bouts que j'ai pas aimé de ce livre-là, parce que je me suis vraiment, j'ai fait un marathon, puis c'était pas la bonne approche, puis j'ai vraiment sincèrement, parce que j'ai aimé les personnages, parce que j'ai aimé les scènes, maintenant que j'ai une vue d'ensemble sur ce que c'est, et j'écouterai les films avant aussi, j'ai vraiment envie de le relire, puis à ce moment-là, je pense que oui, je vais m'intéresser à ces petites choses-là qui sont racontées, ces racines, pour pas faire de jeu de mots, je pense que je vais plus m'intéresser à ces choses-là, mais pour l'instant, quand il y a un arbre qui me parle de l'histoire, de je sais pas quoi, je suis comme, oh non, ça m'intéressait pas à ce moment-là. Là.
C'est un peu la même chose que tu as vécu, je pense, avec Rivendell, quand tu étais avec le Conseil des Drons, tu m'avais dit, je trouve qu'il y a trop d'infodump.
Ben, en fait, c'est que j'aime pas quand l'information est livrée. J'aime vivre les choses, j'aime pas quand l'information m'est racontée. Tu sais, faut le voir, faut pas le dire. Mm-hmm. Puis là, vu que, tu sais, ce gros livre-là, c'est juste une fraction de tout ce qui s'est passé dans ce monde-là. En fait, ça cumule de tous les événements qui sont passés dans le passé, ce qui fait que, ben, nécessairement, on a des personnages qui arrivent qui disent « Bon, ben, c'est ça qui s'est passé avant, puis c'est de là que je viens, puis là, je suis fâché à cause de cette affaire-là. »
Il y a 3 générations, telle personne a fait
c'est ça. Ça remonte à loin, puis j'étais comme, j'aimerais ça m'y intéresser, puis je le sais que je vais m'y intéresser, là, mais au moment où je l'ai lu, c'était pas ça que je venais chercher, malheureusement. Tu sais, j'ai l'impression que c'est, quand tu regardes un film, tu regardes le DVD, là, je parle aux vieux là, qui sont ici, on regarde un DVD, puis tu regardes le film, puis t'aimes le film, puis après ça, tu regardes les scènes qui ont été coupées, puis tu te dis, OK, ces scènes-là ont été coupées parce qu'elles ralentissaient le rythme du film, mais tu es quand même content de les voir parce que ça fait partie, ça développe certains personnages. Ou moi, j'avais l'impression que toutes les scènes coupées étaient dedans, mais je les aurais plus appréciées en scènes coupées. Je les aurais plus appréciées après, tu sais.
Ben, t'en as des scènes coupées avec les annexes.
Ouais, si... mais je me rendrai jamais là. Là. Je te dis. Non. Ben non, mais peut-être un jour, là, quand j'ai.
Si mais la portion Aragorn et Arwen est bonne, là, cette annexe-là.
Ouais. OK. Enfin, ben,
celle-là. Mais prends le temps, là, t'es pas obligé de dire ça tout de suite. Mais Aragorn et Arwen est vraiment, vraiment belle.
Il y en a des scènes coupées dans le livre, il y a des annexes. Non, mais.
Ouais, c'est ça. Puis il y a tout le scénario.
Ouais.
Ça, c'est pas demain la veille, je te le dis.
Non,
là.
Ben moi, j'ai jamais vu non plus.
Puis, voilà. j'ai vu là, derrière, là, il y a comme 10 autres livres là, ou 12 autres livres de trucs. Ouais, c'est, c'est ça, là. Puis, tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, si j'avais eu un méga coup de cœur, drette en partant, je serais comme, ah, oh, wow, je serais super excité de rentrer là-dedans puis de découvrir toutes ces choses-là. Ça viendra peut-être, là. Ça viendra peut-être avec les années, mais c'est ça. Pour l'instant, je pense que je vais relire Le Seigneur des Anneaux, mais genre à mon rythme, sans date butoir, puis je pense que ça va être plus agréable comme ça. Je pense bien avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce livre. Est-ce que vous avez... Là, je sais, vous pourriez en parler pendant 3 heures, mais...
Je suis pas obligé.
Y a-t-il des choses qu'on peut rappeler? Y a-t-il des points vraiment importants que vous voulez discuter?
Ben, je voulais vous montrer... J'ai trouvé une édition dans une boutique de livres usagés.
Mm-hmm.
C'est édition grand format avec des illustrations du film d'animation qui est sorti dans les années 80. Mm-hmm. C'est en deux volumes. Tu as les 6 livres, les 6 grandes séparations, si on veut, à l'intérieur. Mm-hmm. Puis, avec évidemment les cartes et de la façon que c'est... C'est présenté là, avec
dans deux colonnes.
Avec bon, des images du film d'animation aussi. Je ne l'ai pas lu là-dedans, par contre.
Non.
Je vais y faire attention à cette édition-là. Le papier jauni, là, tu sens qu'il y a, il y a du vécu.
Ça sent le vieux livre.
Oui, ça sent. Ah, ouais, ça sent le vieux livre. Mais je le garde juste parce que je suis un collectionneur là, de tout, finalement. Mm-hmm. Mais ouais, je suis content de l'avoir, tu sais, de le posséder. Je vais peut-être un jour, je vais peut-être le relire dans cette édition-là. Mais moi, je vais passer vite sur la partie de Tom Bombadil.
Ah oui.
Et ça, c'est l'avantage de la relecture. Là, ça rejoint un peu le live qu'on a fait avec sur la chaîne de Maps il y a une ou deux. Tu sais, on parlait de la relecture comme thème, puis on se disait ça te permet d'avoir des informations, tu sais, que tu as passé vite justement la première fois parce que tu voulais être dans l'action, puis là, tu peux porter plus attention, tu sais, justement au lore. Et ça permet aussi l'avantage de dire, ben, ce bout-là, tu sais, je t'aime pas tant. Vite, on va.
la première fois que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, oui, il y a beaucoup de descriptions. Tu sais, c'est long avant qu'il quitte la comté.
Ouais.
Mmh. C'est vraiment très long, là. Mais c'est pas désagréable. Mais quand il commence à parler de l'un, l'ancêtre, le grand-père de l'un, puis fils de machin, là, la première fois que tu lis ça, t'es comme, c'est-tu important? T'sais, faut-tu que je me prenne des notes mentales? Là? Faut-tu que je me fasse un cahier de notes à côté avec l'arbre généalogique? Au final, c'est totalement inutile. T'sais. Et oui, tu peux t'en intéresser si vraiment là, t'es à fond dans l'univers. Mais quand tu le relis justement une deuxième fois ou que tu as vu les films, tu te dis, OK, ben, tu sais, c'est pas grave. Là. Je vais passer vite sur ces éléments descriptifs-là qui sont peut-être superflus selon moi. Mais si tu tripes là-dessus, ben, ça, c'est que ça.
Mm-hmm.
C'est... Fait que,
ouais. Ben, tu me réconcilies avec le concept.
C'est un bel univers. Je trouve que si ça a été si marquant, parce que l'impact culturel du Seigneur des Anneaux est majeur là, pour le fantasy, je veux dire... Pour quelqu'un qui joue à Donjon Dragon, Patrick, tu dois le savoir, là,
ben oui, oui.
La plupart des créatures, l'univers est carrément basé là-dessus, ou presque.
Oui,
là.
Oui,
c'est extrêmement inspiré du Seigneur des Anneaux. On ne se rend même pas compte à quel point il y a des références culturelles dans d'autres films qui sont littéralement pris dans le Seigneur des Anneaux. Nous autres, je pense qu'on l'a tous lu, genre soit dans les années 2000 ou tout récemment, à cause des films. Juste la trilogie de films, ça a eu un impact incroyable sur le cinéma.
Oui.
Je pense probablement plus grand que ce que les romans ont eu comme impact à l'époque où c'est sorti.
C'est pas sûr que ça.
Ça a influencé après ça toute une génération d'auteurs qui ensuite en ont influencé une autre génération.
On n'aurait pas
eu Game of Thrones si on n'avait pas Le Seigneur des Anneaux, puis on n'aurait pas eu après ça La Roue du Temps, puis on n'aurait pas maintenant Brandon Sanderson. Tout ça, Mais... comme un peu, genre, découle, tu sais, c'est l'arrière-grand-père. Du... Ouais.
Mais c'était quand même très niché, tu sais. Ouais. Il fallait que tu tripes déjà sur ce genre-là pour t'y intéresser. Je pense pas que le grand public... connaissais à ce point-là le Seigneur des Anneaux.
Moi, je suis pas sûre, honnêtement. Je pense que, justement, ça a peut-être été une œuvre qui a permis à plus de gens de découvrir le genre. Parce que ça a été très populaire. Moi, tu sais, ma mère, là, je veux dire, elle disait peut-être pas ça avant, là, puis là, elle a trippé là-dessus, tu sais.
Ça a été très populaire pour du fantasy, mais je pense pas que ça a été mainstream, tu sais, au point où tout le monde peut connaître les références. Ouais. Je pense que c'était très...
Déjà, les films ont fait le job, c'est ça.
C'est ça. C'est un peu là où je voulais aller avec ça. Ouais. Mais c'est une œuvre majeure là, dans la littérature. Là. Moi, je les ai lues en français. Peut-être que je vais me lancer un jour dans la version originale. Mais, ouais.
Moi, j'ai envie de faire le contraire. Je l'ai lu en anglais. Puis je me dis, j'aurais pu me donner une petite chance puis de lire en français.
La prochaine fois que je vais le lire, ça va être en français. Si je veux le lire.
Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, puis c'est vrai, on oublie à quel point c'était un... Ben, on oublie, on le vivait à l'époque, on s'en souvient, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on oublie à quel point c'était un événement, ces films-là, là, parce que c'était un pari risqué, là. C'est pas un film, c'est trois films, méga budget, les trois films tournés ensemble... Des films de 3 heures, c'était un peu moins long au cinéma, là, mais c'était des longs films quand même. Mm-hmm. Puis c'était pas la norme à ce moment-là d'aller voir des films aussi longs. Puis des films de fantasy, un genre, tu sais, c'était pas Batman qu'on avait déjà vu. C'était un gros risque, là, puis ça a été vraiment hyper payant.
Ouais. Oui. Ben, ça fait revivre New Line Cinema à l'époque. Hein.
Oui, c'est ça. Puis toi, excuse-moi, je t'ai interrompu, Daphné, mais tu...
Non.
Non, OK, désolé.
J'avais rien à dire de plus.
Mais bref, je le relirai et je vous en donnerai des nouvelles. Est-ce que tu as autre chose à dire, Patrick?
Un dernier petit truc. J'ai lu une des annexes hier, parce qu'on s'entend en audiobook, les annexes, c'était insupportable. Mais il y a une des annexes qui relate un peu tout ce qui arrive aux membres de la communauté après... Le Seigneur des Anneaux, et juste de lire qu'après la mort de Rose, Sam va rejoindre Frodon sur les terres des elfes. J'ai fait couler ma larme.
Ah!
Voilà. Voilà.
C'est rassurant. Puis j'ai oublié de te dire, mais quand tu montrais, Jonathan, ta nouvelle édition, ta belle édition, ta vieille édition, moi je me disais, non, mais quelle erreur ça aurait été pour moi de lire... Tu sais, si je n'avais pas eu à lire ce livre-là dans le cadre d'un podcast, quelle erreur ça aurait été pour moi de choisir cette édition-là, parce qu'à la fin du premier livre, pas sûr que j'aurais pris le deuxième. Pour vrai, parce que la façon que c'est découpé, celui-là, tu sais, à la fin du tome 2, à la fin des deux tours, on est avec photo puis tout ça, puis tu sais, c'est le fun, puis j'aime ça. Mais ça avait fini à la fin du livre 3.
Ouais.
Pas sûr que j'aurais eu tant d'intérêt, là. Mm-hmm. Mais bon, je suis content de l'avoir fait. Sur ce, est-ce que... Je sais pas si Daphné, Jonathan, vous avez des petites choses que vous voulez nous dire, je pense qu'on peut conclure sur Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous avez des petites suggestions autres, petites suggestions culturelles autres?
Ben, ouais, je peux commencer.
Mm-hmm.
Ouais. Si vous n'êtes pas allé voir Dune partie 2 au cinéma, faites-le. Pour vrai, je pense que ça va avoir le même impact que Le Seigneur des Anneaux a eu au début des années 2000.
Mmh.
Ouais. C'est à ce niveau-là. Et puis là, je suis en train de lire là, Dune, justement. Ça, c'est un pattern chez moi. Là. Je vois le film, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je lise le roman.
Oui.
Hey.
Exactement la même édition. Fait que, pour vrai, j'ai été très impressionné par le travail de Denis Villeneuve.
Mm-hmm.
Au point où je lis le roman, puis là, je suis à peu près au tiers du premier. Je suis pas déçu, mais on dirait que je suis moins emballé. Le film est incroyable. Est-ce que vous l'avez vu?
Oui.
Mm-hmm. Oui.
J'ai vu deux fois, puis pour vrai, ça me tiraille beaucoup d'aller le revoir au cinéma, parce que c'est le genre d'affaires que tu vois en salle, là. C'est juste incroyable.
Moi, j'ai pas pu, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai envie de lire Dune à cause de ça. Je vais probablement le lire cet été, mais... oui! Ça marche tout le temps tellement bien!
Oui!
Mais j'ai perdu mon fil, mais je vais le lire, je suis complètement d'accord avec toi. Puis c'est vrai, je regardais, oui, c'est ça, je trouve ça dommage de ne pas avoir eu la chance de voir comme, moi j'irais au cinéma voir le 1 et le 2 comme ensemble, là. Je trouve ça dommage de ne pas avoir eu cette chance-là. Puis sérieusement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un grand film, c'est un univers incroyable, et oui, c'est le Lord of the Rings de maintenant, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Daphné?
En fait, moi, je vais quand même rester dans l'univers du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a la série sur Prime Video, Les Anneaux du Pouvoir.
C'est bon! Fait,
ben moi, je l'ai bingé. Quand Jean, il n'est pas trop d'accord. Là, dans le fond, ils ont essayé puis ils n'ont pas embarqué dedans, lui puis sa blonde. Mais moi, j'ai commencé genre, un vendredi, là, fin de journée. Je l'ai fini le samedi soir, là, genre à 1h du matin. J'étais vraiment, vraiment dedans. Je l'ai bingé. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que, dans le fond, dans cette série-là, on voit la création des anneaux. Plusieurs centaines d'années avant Le Seigneur des Anneaux, mais tu sais, il y a quand même des trucs que tu dis ça va s'en aller là, puis OK, ça c'est telle personne, je sais avec qui que tu es relié, mettons. Puis je trouve ça super intéressant, puis il est supposé d'avoir une deuxième saison, là. Fait que là, pour l'instant, il y a juste une saison, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé cette saison-là. Puis moi, je suis du genre à aimer ça, le lore. Tu sais, je le dis souvent, là, je suis fascinée par les gens qui sont capables de créer des univers aussi complexes, inventés. J'aime vraiment ça voir, tu sais, oui, on a l'histoire principale, mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour se rendre là, tu sais, fait que ça, j'aime bien ça. Fait que voir la création des anneaux, puis là, tu te dis, hey, cette personne-là, là, il me semble que c'est un méchant ou c'est pas un méchant, c'est pas clair. Tu le sais que normalement, c'est supposé d'être un méchant, mais là, il y a de l'air fin. Fait que tu sais, c'est quoi qui se passe au juste, puis comment qu'on s'est rendu, tu sais. Fait que Les Anneaux du Pouvoir, là, sur Prime, moi, je le recommande.
J'avais aucun intérêt, puis là, t'es en train de m'intéresser. Non, mais là, tu me donnes envie de la regarder.
Ça me donne le goût de le finir, en tout cas.
Il y a des rebondissements, là, pour vrai, là. C'est moi, j'ai trouvé ça vraiment bon.
C'est un peu mal rythmé, moi, je trouve.
Ouais.
J'ai vu la première saison, ben, je l'ai regardé, puis là, j'avais apprécié. J'ai essayé de le revoir une fois, puis j'ai pas accroché autant que la première fois. Mm-hmm. Puis j'ai arrêté même après le quatrième épisode. Je trouve que c'est un peu chiant, en fait.
Oui, mais tu l'as écouté une première fois au complet, puis...
Oui! Oui, mais je m'attendais quand même à... Oui, puis je vais regarder la deuxième saison, puis je pense que même la troisième est déjà renouvelée, donc...
Oui.
Voilà. On verra bien. S'ils apprennent de leurs erreurs, au moins au niveau du rythme.
Mm-hmm. C'est cool.
Vraiment le fun, comment on a reparlé de tout, sauf de l'adaptation du Hobbit. Mais toi, Patrick...
moi, je vais parler d'un film qui n'est plus au cinéma, mais qui, à mon avis, va sortir en DVD prochainement. C'est un film de A24 qui s'appelle Iron Claw, avec Jeremy Allen et Zac Efron, entre autres.
Oh, ouais.
Et qui raconte... En fait, c'est un biopic, et contrairement à la plupart des biopics, ça raconte pas l'histoire d'un homme qui a fait des trucs exceptionnels puis qui a trompé sa femme. C'est l'histoire
c'est
en fait
pas
de
mal
quatre...
ça qu'on voit d'habitude.
Absolument, oui. Et là, c'est l'histoire en fait de quatre frères qui font de la lutte dans les années 70, début 80, en tout cas dans ce coin-là. Et en fait, ils ont une malédiction. Et en fait, ils croient avoir une malédiction où leur famille est maudite et qu'ils auront plein de malheurs sur eux. Et c'est le cas. Mais tu te rends compte au fur et à mesure que c'est à cause du père qui est vraiment intransigeant, qui est vraiment un gros con, en fait. C'est un film. Moi, j'aime ça sentir des trucs au cinéma. Un film d'horreur, j'aime ça avoir peur. Une comédie, j'aime ça rire. Et un drame, j'aime ça pleurer. Et je pense que c'est le film qui me fait le plus pleurer à vie. La
Ouais.
fin, elle est tellement. Elle est tire-larme, mais. Du bon tire-larme. C'est pas genre, OK, on va te faire pleurer pour faire pleurer. Non, non, c'est bon. Les phrases qui sont dites, j'ai jamais sangloté comme ça au cinéma. Et même pendant une demi-heure dans la voiture après, il fallait pas que je repense au film, sinon je me remettais à pleurer alors que je conduisais. Donc, je voulais pas avoir d'accident. Puis c'était vraiment bon. Je le recommande à tout le monde. Tout le monde est exceptionnel dans ce film-là.
Rappelle le titre.
Iron Claw, la griffe
Iron Claw.
de fer.
Excellent. Ben, merci beaucoup. C'est clair que je vais voir ça. Là, moi, je voulais profiter de ta présence, en fait, pour parler d'un film que je suis allé voir au cinéma. C'est un film d'horreur, hein? Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes anciens collègues du dernier podcast sur la gauche. Et je suis allé voir un film d'horreur, puis quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ben c'est très typique comme histoire, là, non, non, c'est très répétitif. Ben, tu sais, pas répétitif, mais c'est le genre de film qu'on a déjà vu. Puis là, une semaine passe, 2 semaines passent, puis je continue de penser à ce film-là, il continue de me hanter. Donc, il a réussi quelque chose. Ce film-là, contre toute attente, c'est The First Omen. Est-ce que tu l'as vu, Patrick?
Oui,
Est-ce que
je
vous
l'ai.
l'avez vu?
Ben non, je regarde pas ça. Moi,
Ouais,
qu'est-ce
c'est pas ton genre. Qu'est-ce
que
que tu en as pensé?
j'ai aimé à moitié, dans le sens que je trouvais que on aurait dit un film d'auteur, très très lent, mais excellent, où les producteurs ont dit, ah non, il faut mettre des jumpscares, ah non, il faut mettre une fin ouverte pour peut-être une suite. Et ça m'a beaucoup dérangé. Et je l'ai vu, je pense, une ou 2 semaines après Immaculate, que
Ouais, ça, je l'ai pas vu, malheureusement.
j'ai beaucoup plus aimé Immaculate, qui aborde un peu les mêmes thèmes et qui a quasiment la même fin, mais Immaculate a des couilles.
Ah,
Donc.
OK. Ben, je serais curieux de voir ce film-là, parce qu'on parle d'un film, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que c'est une nonne qui essentiellement se fait forcer par l'Église catholique de faire un enfant, et Immaculée qui raconte un peu la même chose aussi. C'est quand même fascinant, puis c'est pour ça que j'aime l'horreur, c'est que ces deux films-là, comme par hasard, deux projets qui racontent essentiellement des choses similaires,
Ouais.
arrive évidemment à un moment où l'Église, où les Américains remettent en question le droit à l'avortement à cause de valeurs reliées à la religion catholique et tout ça. Donc, tu sais, ces thématiques, c'est dedans, je
Ouais.
trouve ça vraiment intéressant. Il y a quelque chose dans The First Omen qui est un préquel à The Omen qui devrait pas être bon, mais qui est vraiment fascinant. Et il y a une scène en particulier dans ce film-là que je pensais pas voir ça dans un film américain.
Laquelle?
C'est le premier accouchement. Mais là, je reste vague parce que je veux que les gens le voient. Mais le premier accouchement auquel on assiste dans le film, là, c'est quelque chose que je pensais pas voir. Et il y en a d'autres, des scènes qui sont vraiment marquantes. Et il y a une espèce d'ambiance aussi. Ça se passe dans les années 70, dans un couvent. C'est vraiment particulier comme film. Oui, il y a un aspect très film américain qui m'a vraiment gossé. Mais en même
Le
temps,
twist, il n'y a pas un twist que tu devines dès le
ouais.
début.
Ah, ça c'était un peu drôle, là. Mais c'est ça. Il y a une ambiance dans ce film-là, puis j'avais envie d'en parler. Bref,
Oui.
je vous remercie, Patrick, Daphné, Jonathan. Merci beaucoup d'avoir été là. Et
Merci de m'avoir accueilli.
ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense peut-être que je te ferai revenir pour Dune si je décide de le lire cet été.
Plaisir.
J'aimerais bien ça.
Hey, mais en plus, c'est du
Oui.
temps pour le lire plus qu'un mot, là.
Oui. En fait, je pourrais commencer maintenant. Je pourrais commencer maintenant, puis on en parle genre beaucoup plus tard. C'est ça, genre. Puisque je ne suis plus sur les médias sociaux, je vais créer un nouveau segment ici pour vous annoncer ce qu'on va lire dans 2 mois. Donc, au mois de juin, on va lire le livre Match de Lily Boisvert. Ça compte une petite histoire de relation qui ne va pas bien. Et Moi, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment très important. Je vais le relire avec plaisir et on va en parler au mois de juin. En attendant, on va se retrouver au mois de mai pour parler d'un bord à l'autre, le tome 5 des chroniques de San Francisco. On parle de ça au mois de mai. On se voit très bientôt. Et sur ce, je vous dis bonne journée et bonne soirée. Au revoir.